On relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative mayonnaise.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sûr l'autre radio et bienvenue dans On relève la sauce. Alors On relève la sauce, émission où je vous propose de découvrir les ingrédients et les recettes de la vie associative mayonnaise. Alors, mais d'abord, meilleurs vœux et bonne année à tous et à toutes évidemment. Je vous souhaite donc pour cette année plein de bonnes ondes et la concrétisation de tous vos projets associatifs. Et pour démarrer cette nouvelle année, je vous propose au menu du jour la découverte ou redécouverte d'une structure mayonnaise et de ses actions de soutien à la vie associative qui est la Ligue de l'enseignement FAL 53. Alors avec des formations, accompagnements, soutien, il y a aussi des dispositifs d'assurance, bref, plein d'actions qu'on découvrira ensemble. Et on garde bien sûr aussi nos chroniques et aujourd'hui Nora Duval de l'APES, donc Association de Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire en Mayenne, nous propose quelques pistes pour aborder un sujet, on va dire, conséquent, le financement des associations. Et pour finir, on retrouvera Christophe Tropeau pour un petit coup d'œil dans le rétro au travers de l'histoire des associations dans les communes rurales mayennaises. Et aujourd'hui, on s'intéressera sur les différents concours et compétitions associatives qui ont permis justement aux associations mayennaises de s'ouvrir petit à petit au monde. Allez, c'est parti, on y va. Et donc en ouverture de ce menu, comme je vous le précisais tout à l'heure, on reçoit donc en studio la Ligue de l'enseignement FAL 53 avec Julien Favreau, directeur, Solène Plard et Bettina Laouard en charge de la communication. Bonjour à vous.
Bonjour.
Salut.
Donc, alors,
bonjour.
Bonjour à vous. Donc, alors, je vais commencer tout d'abord par me diriger vers vous, Julien, donc pour peut-être présenter ou représenter un petit peu ce qu'est la Ligue de l'enseignement FAL 53, rapidement, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de services, mais pour en venir peut-être petit à petit à ce qui concerne la vie associative.
Alors. Oui, la Ligue de l'enseignement, c'est maintenant près de 25 salariés. On a plusieurs services. On a un service de formation professionnelle. On a un service éducation, jeunesse et numérique. Des actions plutôt en lien avec l'éducation, la jeunesse et puis tout ce qui est médiation numérique.
D'accord.
Un pôle également sportif avec l'UCEP et l'UFOLEP. Et puis on a un autre service qui est plutôt lié à la culture avec l'avant-scène sur de la médiation culturelle et puis un pôle effectivement vie associative et fédérative.
D'accord, alors, voilà, donc waouh, beaucoup d'actions, on va pas peut-être pas approfondir chaque sujet. Ce que je propose, c'est qu'on s'attarde peut-être un petit peu plus justement sur ce service vie associative. Alors l'idée, c'est de proposer des choses parce que pour les associations, mais il me semble qu'il y a aussi cette dynamique qui se cache derrière le mot l'acronyme FAL, Fédération des associations laïques. Enfin voilà, quelles sont les différentes actions pour les associations en Mayenne?
Oui, c'est vrai qu'historiquement, la Ligue d'enseignement, c'est une fédération d'associations, donc effectivement plutôt liée aux amicales laïques, et puis tout ce qui est associations socio-culturelles et les associations sportives, comme je le disais avec nos deux associations sportives, l'UCEP et l'UFOLEP. Donc on est dans l'accompagnement associatif depuis très longtemps, donc sur la formation des bénévoles. Donc effectivement, où là on a trois domaines où on va être plutôt sur tout ce qui est numérique, l'accompagnement aussi pour les bénévoles de lire et faire lire.
D'accord.
Et puis on va dire un volet plus général sur tout ce qui est gouvernance, sur l'accompagnement au projet associatif, sur la comptabilité, enfin plutôt sur les fonctions un peu clés dans les conseils d'administration.
Et ça consiste en quoi justement, ça passe par quelle aide ou par quel soutien du coup?
Par rapport sur les formations directement ou sur d'autres
soutiens? Parce que il me semble par exemple qu'il y a aussi cet appui aussi par rapport à une assurance, voilà, la possibilité aussi de pouvoir bénéficier à une assurance spécifique pour les associations par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu aussi d'éclairage là-dessus?
Oui, ça a été en fait la Ligue de l'enseignement au niveau national a créé son propre service d'assurance qui s'appelle l'APAC, qui permet voilà, d'assurer l'ensemble des structures qui sont affiliées à la Ligue d'enseignement. Alors, ça représente à peu près 20 000 associations en France, mmh. et 150, entre 150 et 200 selon les années sur le département de la Mayenne. Et ça nous permet justement d'avoir ce principe d'assurance, de mutuelle, de pouvoir assurer bah, notamment le secteur sportif, mais pas que aussi, dès qu'il y a des incidents matériels ou humains sur les manifestations diverses et variées, on va dire. Quoi, donc il y a effectivement le principe d'assurance. Après, plus globalement aussi, on a un principe d'affiliation qui permet aussi à la fois de se fédérer autour des valeurs de la Ligue de l'enseignement, bon, qui sont l'éducation, la laïcité, la démocratie, dans son sens un peu global et général. Et puis après, d'être aussi affilié à un mouvement qui permet aussi de porter la voix des associations à la fois au niveau local, puisqu'on est sollicité, ça peut être par la préfecture par exemple, sur des thématiques liées à la vie associative, et puis au niveau national aussi avec le ministère. Donc là, avec notre centre confédéral au niveau national pour porter la voix des associations à la fois dans les ministères et puis aussi en lien avec des organisations telles que le mouvement associatif. Quoi.
Et est-ce que pour bien se représenter, est-ce qu'on a une petite idée un petit peu justement du nombre d'associations que ça concerne? Vous nous parliez de environ 200 associations, c'est ça pour la Mayenne?
Oui, c'est ça, entre 150 et 200, et ça représente à peu près 8 000 adhérents sur le département, et un peu plus d'un million d'adhérents au niveau national.
D'accord. Et donc, alors il y a donc cette dispositif, la porte d'entrée est celle de, pour certaines, enfin voilà, c'est pas la seule, mais pour certaines, c'est celle de cette assurance qui est connue. Et ensuite, il y a ce système de d'affiliation à des valeurs. Est-ce qu'il y a justement d'autres ensuite dans la vie de l'association? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Vous parliez tout à l'heure de l'aspect de la gouvernance. Qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Là, clairement, c'est plutôt les formations et puis soit via des formations, soit via aussi des rencontres et des rendez-vous qui sont pris. Là, on fait du conseil à la vie associative, voilà, de manière gratuite. Hein. On accompagne les associations aussi dans leurs projets. Ça peut être sur l'écriture des statuts, sur des conseils aussi sur comment gérer une association. Ça peut être sur la partie comptable. On appuie aussi, et ça c'est un peu notre spécificité aussi en Mayenne, beaucoup les associations sur le domaine du numérique. Donc ça peut être effectivement par exemple Framalic, un outil où maintenant on a 2500 utilisateurs sur des outils libres et éthiques de stockage de données, un peu comme un Google Drive, mais avec le côté éthique en plus, quoi, où on a aussi un agenda, on a la possibilité d'avoir des outils collaboratifs, de chat, de travail en fait collaboratif sur un même espace. Sur le volet numérique, on a aussi avec le GDOS, on propose un outil de comptabilité en ligne qui s'appelle BasiComta. Donc on fait la formation et on propose l'outil qui permet à des petites associations, on peut dire jusqu'à 2 salariés à peu près, de pouvoir gérer leur comptabilité, leur bilan, leur compte de résultat en ligne, de faciliter après l'édition des différents documents pour préparer les AG ou les conseils d'administration par exemple.
Ouais, donc ça c'est des outils qui peuvent concerner en tout cas toutes les associations, qu'elles soient employeuses ou pas, enfin en tout cas quelle que soit la taille, ça peut toujours être pratique d'avoir un outil de comptabilité. Et puis justement cet outil de, on va dire ces outils numériques.
Oui, tout à fait.
Et par rapport à Framalic, justement, est-ce qu'on peut avoir comment est-ce que ça se passe? Qui est-ce qui peut avoir? Parce que ça me paraît. Enfin voilà, c'est donc une alternative, on pourrait dire, à tout ce qui est Google Drive, enfin toutes ces choses-là, quoi. Si j'en saisis bien.
Oui, ben nous on le propose en fait effectivement à toutes nos associations affiliées. Alors en fonction des besoins, du nombre de données, du nombre de gigaoctets, du nombre d'utilisateurs, voilà, il y a une tarification qui est proposée, mais on a un espace jusqu'à 5 gigas. En tout cas, on propose le service gratuit à nos associations qui sont affiliées à la Ligue de l'enseignement. Quoi. Donc, et puis après, on a un appui, on a Guénolé, Raoul qui est chargé de mission chez nous, qui accompagne et forme aussi l'ensemble des utilisateurs à l'utilisation justement de l'outil, et puis avec des visios aussi régulières pour pouvoir présenter l'outil et pouvoir répondre aux questions techniques et d'utilisation, quoi.
Ouais, voilà, donc vraiment sur cet aspect, donc il y a l'outil, puis il y a tout l'accompagnement autour, enfin voilà, pour essayer d'avoir des, parce que là c'est souvent l'outillage numérique auquel on se pose pas mal de questions. Est arrivé la visio, est arrivé tout ça, est arrivé toute cette connaissance, et puis entre guillemets un petit peu la conscience de l'impact numérique et des données là-dessus. Donc Framalic, ça se situe comment par rapport à ça?
Nous, on est sur effectivement un outil éthique où on s'engage à une non-utilisation des données, à la fois pour une utilisation commerciale ou de revente de données. Donc, c'est-à-dire que nous, on est vraiment dans un principe où l'utilisation des données appartiennent aux associations et aux personnes qui utilisent Framalig. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Collectif Chaton. Hein, c'est un collectif d'hébergeurs alternatifs transparent, ouvert, neutre et solidaire, qui est piloté par Framasoft au niveau national. On s'engage clairement dans ces valeurs justement d'hébergement éthique et alternatif. Quoi.
Avec peut-être on peut le stockage justement physique de ces données. Est-ce que c'est un serveur très éloigné? D'accord, ok.
Voilà, qui est dans nos locaux à Laval, effectivement, où on a eu la chance d'avoir des dons de serveurs informatiques par des entreprises, ce qui nous a permis de lancer le projet il y a maintenant 5 ans, et puis on a racheté des matériels informatiques au fur et à mesure pour développer et faire en sorte que le service soit aussi plus efficient et plus opérationnel. Et maintenant, on arrive à quelque chose qui est à la fois... très performant, et puis avec l'éthique qui va avec, quoi.
Ok. Donc là, on a fait un petit peu le tour, je dirais, des différents accompagnements, en tout cas, que peut proposer la Ligue de l'enseignement.
Il y en a plein d'autres, hein, mais ça pourrait prendre du temps, mais peut-être deux ou trois, notamment le service d'adhésion en ligne, qui est Affiligue, hein, qui nous permet de gérer aussi les cartes d'adhésion, tout le service d'assurance... et tout le service, tout le lien avec les adhérents. Donc ça, c'est un outil qui permet vraiment d'aider justement les associations. Et puis on est aussi tiers de confiance auprès de l'URSSAF, donc on peut éditer des bulletins de paye.
D'accord.
Via Impact Emploi, qui est un dispositif, où on peut éditer des bulletins de paye pour les associations. Donc on le fait pour plusieurs associations sur le département, quoi.
Pour pouvoir faciliter un petit peu justement toute la gestion de salariale et la gestion des fiches de paye, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et l'édition des bulletins de paye est à la fois un appui, on va dire, social et RH pour les associations sur ce domaine-là, puisque pour les petites associations, souvent, on n'a pas une personne qui est dédiée à ça. Donc, on fait ce travail-là et c'est coordonné au niveau régional, ce service-là. Voilà.
D'accord, ok, très bien. Beaucoup de choses, beaucoup d'actions possibles, et aussi on n'a pas forcément discuté là, du sujet qui va un peu plus nous intéresser là-dessus, sur le volet formation. Donc des formations plutôt à l'attention des bénévoles, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que j'avais commencé par ça, mais c'est vrai que on coordonne avec l'UDA 53 le dispositif Lire et Faire Lire, donc on forme les bénévoles, là, donc c'est des bénévoles de plus de 50 ans qui lisent des histoires aux enfants. Donc là, on a des formations avec des comédiens, sur la question de la lecture à voix haute, comment lire un texte, et donc pour pouvoir avoir le bon ton, j'ai envie de dire, et puis la bonne intonation et tout ça pour lire les histoires. Aussi sur des formations sur la littérature jeunesse avec M-Lire. Et puis, on a d'autres formations qui sont plus liées sur l'organisation des différentes fonctions dans le conseil d'administration, qui peuvent être à la fois de la présidence, du secrétariat, du trésorier, pour citer les plus importantes, où on va appuyer effectivement les associations sur ces fonctions-là. Et puis un autre domaine qui est plus sur le numérique et la communication. Donc avec le numérique, effectivement, par exemple sur Framalig. Là, j'ai présenté un petit peu l'outil. Et puis effectivement avec ce que font Bettina et Solène sur la communication.
Bah justement, on va en profiter. Comme vous êtes ici en studio, Solène et Bettina, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les prochaines formations? Parce qu'il me semble que ça arrive très très vite. Alors ça a déjà commencé, il y en a déjà eu autour du traitement de texte, il me semble. Mais, et puis là, qui arrive très très vite, les formations autour de communiquer sur les réseaux et réaliser ces supports de communication avec un outil gratuit. En fait, toutes ces formations-là, elles sont pour répondre un petit peu aussi et outiller par rapport à une question qui ressort très régulièrement sur la comment est-ce que je communique sur mes actions, en fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces formations, Bettina?
En fait, c'est vrai que dans le milieu associatif, on n'a pas forcément toujours de chargé de communication et on se base énormément aussi sur le modèle du bénévolat. Et donc, en fait, pour valoriser les bénévoles qui prennent des responsabilités dans les structures associatives, il y a donc ces formations bénévoles qu'on propose en communication. Donc, on en a une qui se nomme « Communiquer sur les réseaux sociaux » qui arrive donc mardi 24 janvier. Et donc, cette formation, c'est notamment pour connaître en fait les bonnes pratiques à avoir sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que ça peut être parfois... on peut être parfois démuni face aux réseaux sociaux, surtout quand on n'en a pas nous-mêmes un usage personnel. Ouais. Donc, c'est les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, savoir les différencier, pour quel public, enfin, quel réseau social, pour quel public. Voilà, on va un peu balayer tout le béaba et on va également voir avec vous, pour créer des contenus pertinents et un peu respecter les droits, en fait, sur les réseaux sociaux, quand même. Voilà, faire un petit point là-dessus.
Parce que c'est pas, évidemment, c'est peut-être pas la même façon de faire et les mêmes messages qu'on va mettre en avant en fonction des différents réseaux, c'est ça? Et puis, même si on en a une conscience d'une pratique personnelle, on fait peut-être pas exactement la même chose en tant qu'association.
Non, effectivement, on va pas réaliser la même communication sur tous les réseaux sociaux. Mmh. Déjà parce que on va pas avoir le même public aussi sur tous les réseaux sociaux. Donc forcément, ça va beaucoup changer. Et effectivement, évidemment, on n'a pas la même utilisation de manière personnelle que professionnelle ou même dans une asso de manière bénévole, mais on va quand même avoir plus les codes. Si on l'utilise déjà personnellement, on va davantage savoir le maîtriser que si on ne l'utilise pas personnellement.
Mais même si je ne sais pas du tout le maîtriser, en fait, cette formation, ça me permettra quand même d'avoir un peu les bases, quoi.
Oui, complètement. Même bien les bases, puisque c'est justement fait exprès et on va avoir... le B.A.B.A. pour utiliser les réseaux sociaux de manière efficace.
Ok. Et donc ça, c'est sur la formation donc, qui a lieu mardi prochain, de 18h à 21h dans les locaux de la marmite numérique, justement à la Ligue de l'enseignement. Il y a après une autre formation qui est sur réaliser ces supports de communication. Alors, pour avoir entendu un petit peu comment ça se passait pour la première session, on va se servir d'un outil, mais il y a aussi tout un travail autour de la charte graphique, avoir un petit peu de notion de base, c'est ça, Solène?
C'est ça, exactement. En gros, dans cette formation, on va avoir une petite partie théorique, enfin une petite. Pour celle qui a déjà eu lieu, c'est vrai qu'elle a un petit peu débordé. Mais voilà, il y a une partie théorique, donc vraiment sur la stratégie de communication, définir ses objectifs, ses cibles, donc ses publics. Et après vient plus la pratique de l'outil, du coup, qui est Canva. On apprend à utiliser Canva, qui est un outil gratuit, il faut le savoir, pour les associations. Et voilà, ça va être la prise en main du logiciel, en fait, connaître les fonctionnalités de l'outil Canva, que ce soit pour créer une affiche, un flyer, enfin tout type de support de communication.
Souvent, la communication passe beaucoup par le visuel, passe beaucoup par de l'image. Et donc là, si j'en comprends bien, cet outil facilite la création un petit peu graphique.
C'est ça,
quoi.
Complètement. C'est un outil qui est plutôt facile de prise en main, qui est très ludique, enfin assez instinctif. C'est une interface aussi qui est assez facile à comprendre, je pense, pour même quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissances spécifiques en communication. C'est assez bien aiguillé. Enfin, il y a même des petits tutos et tout sur l'outil. Donc, c'est assez
pratique. Et exactement. Et est-ce qu'on peut, justement, parce que là c'est quand même assez intéressant, au-delà de l'outil, il y a quand même aussi la question, et ce qui est abordé dans cette formation, de c'est quoi une charte graphique, c'est quoi une communication, en fait, qui a quand même quelques bases à prendre en compte. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments autour de ça, Solène ou
On va chercher en fait à bien comprendre avant de communiquer, avant de faire un support de communication, il faut connaître déjà quel est l'objectif, du coup, quel va être l'objectif du message, quel va être le public de ce message. Et à partir de ça, on va pouvoir en fait élaborer un support, un outil de com qui va être pertinent.
Très bien, tout a été dit. Est-ce qu'on peut rappeler justement ces dates de formation et puis peut-être comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire Est-ce qu'il est toujours possible?
Oui, il est toujours possible de s'inscrire, bien sûr. La prochaine, du coup, réaliser ses supports de communication avec un outil gratuit, c'est le 7 février 2023, de 18h à 21h, à la Marmite numérique, toujours. Vous pouvez vous inscrire soit en m'envoyant un mail, tout simplement, à communication, au singulier, @laligue53.org.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Julien?
Juste dire qu'il ne faut pas hésiter à passer directement dans nos locaux, au-dessus de l'avant-scène, là, au-dessus de la Marmite numérique, au 31 du Vieux-Saint-Louis, et puis de manière générale, pouvoir avoir des renseignements sur la vie associative, à la fois sur les formations, et puis dès que vous avez un besoin sur la vie associative, normalement, on doit pouvoir y répondre.
Ok, très bien, ça marche. Solène, peut-être
Une dernière chose à ajouter. Ces formations, en fait, elles sont vraiment là pour mieux faire fonctionner votre association. C'est aussi surtout du partage d'expériences, de connaissances. On est vraiment dans l'interaction. Enfin, on partage des pratiques. On n'est pas que... Enfin, nous, intervenantes, on n'est pas les seules détentrices du savoir. Il y a aussi les associations. Enfin, voilà, toute personne peut nous apporter aussi des choses. L'idée, c'est aussi de faire progresser l'asso, d'intégrer des connaissances, développer des savoir-faire. Enfin, voilà, c'est tout ça, en fait. Les formations des bénévoles, ça, c'est bénéfique autant pour les intervenants que les bénévoles.
Du partage, voilà, du partage de connaissances, ça marche. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à cette interview. Et puis, du coup, vous allez aussi pouvoir retrouver l'ensemble des contacts sur notre site L'Autre Radio, sur le lien de ce podcast. Je vous remercie, belle fin de journée.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Et nous, donc, ce n'est pas terminé, puisqu'on va continuer avec la chronique de la PES, juste après la pause musicale. Stuck in the middle, I have been pushed, I have been pulled. There is no leading me no more astray. I have been pushed, I have been pulled. Amongst lost souls, I know there is no space for doubt no more. It's all written, that's how it goes. No point in resisting the flow, getting your energy low, worrying about things that you can't control. Had to dip out and into my zone. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around. Stuck in the middle. I have been pushed and I've been pulled. There is no fooling me no more. No way. I have been pushed and I've been pulled. You have no say no more. I walk these lands with open mind and eyes I find. The more conclusions, the more I just feel confined. No more wasting time on your negative vibes. Trying to stay aligned. I'm trying to stay aligned. Stay aligned. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Sticking around.
sound. Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around.
Relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative mayonnaise.
Et on poursuit cette émission avec la chronique sur l'économie sociale et solidaire avec l'association de promotion de l'économie sociale et solidaire justement en Mayenne. Pour cette nouvelle année, petit changement, ce n'est pas Janina mais c'est Nora. Bonjour Nora.
Bonjour Anthony.
Alors aujourd'hui Janina t'a laissé entre les mains un dossier très conséquent, celui du financement.
Tout à fait. Et il est vrai que lors de la création de l'entreprise, la question du financement arrive très rapidement. Dès qu'on construit le business plan, en fait, on définit nos besoins financiers et on identifie les différents scénarios pour trouver des fonds. Or, c'est là que ça se complique. La BPI a d'ailleurs lancé le guide du routard du financement d'entreprise, c'est dire s'il y a de quoi se perdre. La BPI, Banque publique d'investissement. Le financement va en effet dépendre de plusieurs critères. Tout d'abord, la prise en compte de la temporalité du projet. Est-ce qu'on est au début du projet ou en plein développement ? Ensuite, la structure juridique qui aura été choisie. Puis le profil du porteur de projet et enfin les objectifs de ce financement.
Et quand on parle de financement justement, est-ce qu'il y en a plusieurs types ?
En effet, il y a plusieurs catégories. On pourrait les classer dans, en tout cas, des grandes catégories qui sont les subventions et les dons, les apports en fonds propres, les prêts et enfin les garanties. Je vais d'ailleurs vous proposer de vous donner quelques exemples. On va commencer par la catégorie subventions et dons. Avec le crowdfunding. En fait, ça c'est assez connu, c'est des campagnes de levée de fonds à durée déterminée qui sont réalisées en ligne, donc c'est des dons avec ou sans contrepartie, et c'est un moyen efficace pour appuyer l'étude de marché auprès des banques. Ça prouve que l'entreprise suscite l'intérêt de futurs clients. Les plus connus, KissKissBankBank, Ulule, nous avons aussi Zest, et puis chez les Bretons, on a Kengo sur les plateformes régionales. Ensuite, toujours dans la rubrique subventions, je vous propose pour les subventions publiques d'aller sur le site de BPI, justement, où il y a un moteur de recherche de la base nationale des aides publiques aux entreprises. Là, c'est pour vous y retrouver et ces subventions sont envisageables, que ce soit de l'émergence au déploiement de la structure. Et puis, en dernier lieu, sur la catégorie subventions, on va avoir tout ce qui est concours, prix et appel à projet. Et là, on a la plateforme ESSOR, E2SOR des Pays de la Loire, où vous allez retrouver tous les appels à projets de la région. Et puis, l'APES, nous, on organise aussi la remise d'un prix sur le mois de l'ESS, au mois de novembre.
Et dans la catégorie des prêts, est-ce qu'on a quelques exemples ?
Tout à fait. Dans la catégorie des prêts, je vous propose de mettre en avant le prêt d'honneur, qui est un prêt à taux zéro destiné aux personnes physiques. Il vise à aider les créateurs et les repreneurs à consolider leur rapport personnel. Ça permet de générer un effet levier pour l'obtention d'un emprunt bancaire. Vous avez Initiative Mayenne du réseau Initiative France et aussi le réseau Entreprendre qui permettent ce genre de prêt d'honneur. Le remboursement se fait sur une durée de 3 à 5 ans.
Merci pour ces premiers éclairages sur ce sujet, on va dire très riche. Et si on fait un focus un petit peu plus sur le secteur associatif, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Tout d'abord que, comme les entreprises, en effet, que ce soit mairie et collectivité, elles peuvent attribuer des subventions. Se développent également les marchés publics et les appels à projets. Et puis, les associations, il ne faut pas qu'elles oublient qu'elles ont leurs ressources propres avec notamment leurs cotisations qui peuvent être fixées par les statuts de l'association. Et puis, je voulais faire un petit focus sur deux possibilités pour les associations qui sont peut-être un peu plus méconnues. Tout d'abord, l'apport associatif. Donc là, c'est lors de la création ou au cours de son existence. L'association peut recevoir des apports, en fait, qui s'apparentent aux apports en capital des sociétés. La différence, c'est que les personnes physiques ou morales ne reçoivent pas de contrepartie financière. Ça ne génère pas de part de l'association. Là, on peut citer les Cigales ou France Active qui peuvent être ces tiers qui apportent des apports associatifs. Et le second, donc c'est le titre associatif. Là, c'est une solution pour le coup qui s'utilise quand l'association doit avoir plus de 2 ans, en fait. Donc, c'est vraiment pas à la création, c'est pendant le développement. Ça doit être approuvé en assemblée générale. Et c'est une solution de financement qui est généralement utilisée pour des levées de fonds qui sont importantes liées à un projet de développement à long terme. Donc là, ce sont des dettes à moyen long terme qui engagent l'association à effectuer un remboursement majoré d'intérêts. Et en effet, là, ce sont des investisseurs qui peuvent être des financeurs solidaires, des banques, des partenaires institutionnels ou encore des particuliers.
Ça donne à réfléchir. Et si je veux retrouver toutes ces informations ou d'autres justement sur les différents dispositifs de financement?
Alors, je vous propose d'aller sur plusieurs sites internet, dont ceux qui m'ont permis de faire cette chronique. Donc, tout d'abord, lesaides.fr. Donc là, il y a un volet soutien à l'ESS. Ensuite, vous avez la plateforme ESSOR, donc E2SOR Pays de la Loire, où là, vous allez retrouver, comme je disais tout à l'heure, les appels à projets, mais aussi la plateforme pour trouver le crowdfunding qui vous convient. Vous allez avoir le site de BPI France Création et enfin une cartographie des financements sur l'avise.org. Et vous pouvez bien sûr aussi nous contacter sur le site de lapes53.org où vous avez toutes nos coordonnées puisque en fait on accompagne justement les porteurs de projets et on peut vous aider pour vous y retrouver dans ce catalogue de financement.
Merci beaucoup Nora pour toutes ces précisions et on se retrouve le mois prochain.
Tout à fait, merci Anthony.
Comme chaque mois, nous retrouvons la chronique autour de l'histoire des associations mayennaises avec vous, Christophe Tropeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la dernière fois, nous avons parlé musique et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu d'ouverture vers le monde. Nous allons évoquer le rôle des associations dans l'ouverture au monde des campagnes mayennaises. On est ici à peu près à la fin du 19e siècle. Le réseau de chemin de fer s'est fortement développé. On peut aller dans le moindre chef-lieu du canton mayennais grâce au train et les associations vont en profiter.
Effectivement. Et donc, je voudrais commencer par prêcher pour ma paroisse, ou plutôt pour mon sujet de thèse, puisque généralement, pour illustrer la modernisation de la France au XIXe siècle, l'ouverture des campagnes françaises sur le monde extérieur, on convoque l'école, qui est rendue obligatoire dans les années 1880, ce qui va faire beaucoup pour l'instruction générale. On convoque également le service militaire, qui oblige, à partir des années 1870, les jeunes hommes à partir pendant plusieurs mois, plusieurs années, loin de chez eux, à découvrir de nouvelles régions, de nouveaux pays. Mais on oublie quasiment toujours le rôle des associations, parce que les associations vont aussi conduire les habitants des campagnes mayennaises à découvrir le monde.
Rectifiant tout ça, alors justement, comment les associations amènent-elles les Mayennais à s'ouvrir sur l'extérieur ?
Eh bien, par la participation et l'organisation de compétitions à l'échelle départementale, régionale, voire même nationale. Grâce au réseau de chemin de fer, il est devenu désormais possible et facile de se déplacer rapidement et à peu près partout.
Donc là, on parle de compétitions sportives.
Eh bien, avant les compétitions sportives, il y avait d'abord les compétitions musicales, on y revient à la musique, ce qu'on appelle les concours de musique. Dans les années 1880-90, dans la presse locale, il n'y a pas encore de résultats sportifs, mais il y a des comptes rendus très détaillés des prestations des formations musicales mayennaises lors des concours. On y juge le plus souvent le chef d'orchestre, le soliste, mais c'est aussi l'interprétation d'ensemble de morceaux répétés ou alors parfois découverts au cours de la compétition. Et la fanfare de Cran est l'un des fleurons du département. Elle participe à son premier concours en 1869 à Angers et elle va enchaîner une trentaine de compétitions ainsi jusqu'à la fin du 19e siècle à Caen, Laval, Paris, Château-Gontier, Rennes, Le Mans, Nantes, Mélève, Vannes, Granville, Dinard, Poitiers, Fougères, Lisieux, Brest, Rochefort ou Bordeaux. Et pour ce dernier concours, en 1898, les Cranais sont partis en train le samedi matin, sont arrivés à Bordeaux le soir, ont répété le dimanche, avant la compétition le lundi, où la fanfare bat une société musicale venue de Marmande dans le Lot-et-Garonne.
Du coup, est-ce que les musiciens et celles qui les accompagnent, est-ce qu'ils ont le temps de faire, on pourrait dire, du tourisme ?
Ben, en quelque sorte, oui. Puisqu'en fait, si je reprends le cas de la fanfare de Cran, avant de revenir à Cran dans la nuit du mercredi au jeudi de la semaine qui suit la compétition, les musiciens se sont accordés, je cite le journal local, une charmante excursion à Royan, sur les bords de l'océan Atlantique. Quand la fanfare de Cran fait le déplacement pour le concours de Granville, ses membres ont fait un crochet pour visiter le Mont-Saint-Michel. Et quand ils sont allés au concours de Dinard, ils se sont rendus sur l'île de Jersey. Donc la vie associative ouvre littéralement les Mayennais sur le monde.
Que rajouter de plus ? Les sociétés musicales sont-elles les seules justement à la fin du 19e siècle à amener leurs membres à voyager ?
Ben non, il y a aussi les corps de sapeurs-pompiers, chose qu'on a déjà évoquée précédemment, avec ce qu'on appelle d'abord des festivals, puis des concours de pompe à l'organisation plus structurée et plus régulière. Alors les différents corps de sapeurs-pompiers s'y affrontent au cours d'épreuves destinées là aussi à juger l'autorité du chef de corps, la coordination des manœuvres, l'épreuve la plus spectaculaire étant l'extinction d'un feu en hauteur situé sur une structure en bois spécialement construite pour l'occasion. Par exemple, le 28 août 1898, le festival de Château-Gontier accueille des pompiers venus de Renazé, Coudray, Ménil, Biernay, Dent, Villiers-Charlemagne, Cran, La Selle-Cranès, Cuillé, Bazouges, Gré-en-Bouère, mais aussi de Segré, dans le Maine-et-Loire. Et à la même époque, les pompiers de Cran se rendent pour des concours au Mans, à Segré, où ils affrontent des corps venus du Maine-et-Loire, mais aussi de la région parisienne. Sur ce même modèle, on a également des concours de gymnastique et de tir.
Donc finalement, les championnats sportifs tels qu'on les connaît arrivent en fait relativement tardivement.
Effectivement, des championnats d'athlétisme et de football apparaissent au tout début du XXe siècle. La première édition du championnat de Bretagne de football, auquel participe le tout nouveau Stade Lavallois, a lieu du 11 janvier au 1er mars 1903. Mais les premiers championnats sont réservés plutôt aux clubs urbains, du fait du chemin de fer. Et donc il faut attendre, par exemple, les années 1910 et la création de plusieurs niveaux dans le championnat de football breton pour voir la participation d'un club d'Ernée ou d'Evron ou d'Andouillé. Les déplacements se font exclusivement en train et participent à l'intégration du village dans le réseau des villes et villages de la région. Et dans cet essor, eh bien, les patronages catholiques jouent un rôle déterminant dans les campagnes mayennaises. Mais cela, je vais vous en parler le mois prochain.
Merci beaucoup, Christophe.
Au revoir.
On relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre et quelques épices. À la découverte de la vie associative mayonnaise.
Et pour terminer cette émission, quelques petites informations. Donc sur la partie financement, attention, le lancement des demandes de financement pour le FDVA, la saison 2023, donc démarre le 23 janvier et la clôture du dépôt des dossiers se fait le 6 mars à midi. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce dispositif en contactant Julien Ouvrard, donc délégué départemental à la vie associative en Mayenne, sur le mail association. Au pluriel 53@ac-nantes.fr. Vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur le site ac-nantes.fr avec sur la catégorie FDVA2. On vous les laissera les coordonnées et ce lien sur le podcast de cette émission. À l'initiative du secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative, une consultation nationale a été lancée sur, attention, comment simplifier les démarches administratives. Eh oui, je vous invite donc, si vous le souhaitez, à répondre à ce formulaire en ligne que vous pouvez retrouver sur le site toujours association au pluriel. .gouv.fr/simplification. Voilà, beaucoup de choses aussi là à simplifier. Toujours sur le site association.gouv.fr, je vous incite aussi à jeter un petit coup d'œil sur la page Les associations et les prix de l'énergie, parce que vous allez pouvoir retrouver quelques dispositifs de soutien financier si vous êtes concerné par l'impact du coût énergétique pour les associations, puisque certains dispositifs de financement à destination des entreprises sont également valables pour les associations. Voilà pour les quelques petites informations et c'est la fin de cette émission On relève la sauce. Alors vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de cette émission sur notre site internet et la page vie associative en Mayenne où vous allez pouvoir retrouver tous les liens et contacts de cette émission. Si vous souhaitez nous contacter également ou partager des informations ou annoncer un événement de votre association, envoyez-nous un petit mail à contact@lautreradio.fr ou laissez un message à l'attention des auditeurs au 09 70 40 59 40. Il me reste donc juste à vous souhaiter une bien belle journée à l'écoute de l'autre radio et pour nous, rendez-vous le mois prochain.